Chapitre 5, You've Got Mail. Le désir de connaître totalement quelqu'un est une façon de se l'approprier, de l'exploiter. C'est un souhait honteux auquel il faut renoncer. Joyce Carol Oates. San Francisco, milieu de la nuit. Jonathan tira d'un coup sec sur la chaînette qui commandait le néon suspendu au-dessus du miroir de la salle de bain. Impossible de fermer l'œil. La faute à la nervosité et à des brûlures d'estomac qui ne cessaient de le torturer depuis qu'il avait bu ce fichu vin. Entouré d'un halo de lumière pâle, il fouilla dans l'armoire à pharmacie à la recherche d'un anxiolytique et d'un médicament antigastrique. Ayant mis la main sur ses deux comprimés, il passa dans la cuisine pour les avaler avec une gorgée d'eau minérale. La maison était silencieuse. Marcus, Charlie et même Boris avaient depuis longtemps rejoint les bras de Morphée. La fenêtre à guillotine était restée entrouverte, mais il ne faisait pas froid pour autant. Un vent chaud se leva, faisant tinter doucement le carillon en bambou, tandis qu'un éclair de lune traversait la vitre pour illuminer l'écran du téléphone qu'il avait mis en charge sur le bar. Jonathan ne put s'en empêcher. D'une pression sur l'unique bouton, il activa l'appareil qui devint instantanément lumineux et cristallin. La petite pastille rouge, indiquant que Madeleine avait reçu du courrier, s'était allumée. Une sorte de sixième sens, matiné de curiosité, le poussa à appuyer sur l'icône pour lire le message. Il avait été envoyé 10 minutes auparavant. Et, si étrange que ça puisse paraître, il lui était adressé.
Cher Jonathan, épargnons-nous d'emblée les Monsieur l'Empereur et Mademoiselle Green, voulez-vous ? Après tout, j'imagine que si vous avez le toupet de lire mon courrier, vous avez dû également jeter un coup d'œil à mes photos et vous rincer l'œil avec les 2 ou 3 clichés artistiques de mon album. Vous êtes donc un pervers et c'est votre problème. Mais évitez autant que se peut de les mettre sur Facebook, parce que je ne suis pas certaine que mon futur mari apprécierait. Cher Jonathan, bis, je profite donc de ma pause déjeuner, et oui, il est déjà plus de midi à Paris, pour vous écrire tout en dégustant un sandwich aux rillettes du Mans confectionné avec soin par Pierre Épaule, membre éminent de la confrérie des chevaliers des rillettes sartoises et artisan boulanger, dont la boutique fait face à la mienne. Je suis installé au soleil, à leur comptoir de dégustation. J'ai donc de la charcuterie plein la bouche, des miettes de pain partout sur mon pull et des taches de gras souillent l'écran de votre beau téléphone. Pas très glamour, je vous l'accorde, mais tellement délicieux. Enfin, ce n'est pas vous que je vais convaincre de la nécessité de savoir apprécier les plaisirs de la bonne chère. Cher Jonathan, donc, je vous laisse ce petit message pour vous annoncer 2 nouvelles. Une bonne et une mauvaise. Commençons par la mauvaise. Comme vous le savez peut-être, en ce début de vacances scolaires, une grève paralyse ce magnifique pays qu'est la France. Aéroport, autoroute, transport en commun, service postal, tout est bloqué. Takumi, mon jeune apprenti, vient de trouver porte close au bureau de poste du boulevard Montparnasse. Et je suis donc dans l'impossibilité de vous renvoyer pour l'instant votre téléphone. Bien à vous, Madeleine. La réaction de Jonathan ne se fit pas attendre. 12 minutes plus tard, sa réponse fusa.
Vous vous fichez de moi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de grève ?
Si elle ne lui renvoyait pas son portable, il était hors de question qu'il lui renvoie le sien. Et Madeleine d'en remettre une couche 30 secondes plus tard.
Encore debout à 7 heures, Jonathan ? Vous ne dormez donc jamais ? Ce manque de sommeil ne serait-il pas responsable du mélange d'irritabilité et de mauvaise humeur qui semble vous caractériser ?
Jonathan poussa un long soupir et envoya un nouveau message à la jeune femme.
Au fait, vous m'aviez promis une bonne nouvelle pour compenser la mauvaise.
Juchée sur son tabouret, Madeleine avala la dernière bouchée de son sandwich avant de répondre du tac au tac.
C'est exact, voici la bonne nouvelle. Malgré le froid et les grèves, il fait très beau à Paris.
À peine avait-elle envoyé son mail qu'elle guettait déjà une réponse qui ne tarda pas à arriver.
Bon, cette fois au moins, il n'y a plus de doute, vous vous foutez de moi.
Elle ne put réprimer un sourire malgré son inquiétude. En l'empêchant de renvoyer son téléphone à son propriétaire, cette grève des services publics la mettait dans l'embarras. Elle lui faisait supporter le poids d'une responsabilité dont elle ne voulait pas. Devait-elle avertir Jonathan du message laissé par son ex-femme qu'il avait appelé de New York pour le supplier de revenir vivre avec elle ? Involontairement, Madeline détenait une information capitale pour le devenir d'un couple, et cela ne lui plaisait pas. La jeune femme commanda un deuxième verre de vin qu'elle but en regardant le mouvement des passants et des véhicules à travers la vitre. Proche de nombreuses grandes enseignes, la rue de Lambre était animée en ce dernier week-end de course de Noël. Sur les trottoirs éclaboussés de soleil, les manteaux cintrés des Parisiennes, les grosses doudounes des ados, les écharpes colorées, les bonnets des enfants, les talons qui claquaient et la buée qui sortait de toutes les bouches se mélangeaient dans un mouvement enivrant de couleurs et de visages. Madeline termina son verre de vin et c'est un peu pompette qu'elle prit la plume, façon de parler, pour rédiger un dernier message.
Cher Jonathan, il est 13h. Ma pause déjeuner arrive à son terme et c'est tant mieux, car si je reste une minute de plus dans cet établissement, je sens que je vais craquer sur leur tarte tatin aux rainettes avec boules de glace et tout le toutim. Une véritable tuerie, comme on dit chez vous. Mais une tentation qui, à moins d'une semaine du réveillon, ne serait vraiment pas raisonnable, vous en conviendrez. Ce fut un plaisir de converser, même brièvement avec vous. Et ce, malgré votre méchante humeur et ce côté grognon, bourru et boudeur qui, je l'ai bien compris, constitue une sorte de marque de fabrique que d'aucunes doivent certainement trouver attachante. Avant de vous quitter, permettez-moi néanmoins d'assouvir ma curiosité en vous posant trois questions. 1. Pourquoi le prétendu meilleur chef du monde sert-il aujourd'hui des steaks frites dans un simple bistrot de quartier? 2. Pourquoi êtes-vous encore debout à 4h du matin? 3. Aimez-vous encore votre ex-femme? À peine Madeline eut-elle appuyé sur la touche envoyée qu'elle comprit qu'elle avait fait une connerie. Mais trop tard. Elle sortit de chez Pierre et Paul et traversa la rue étourdie par le vin.
« Hé, regarde où tu vas, Andouille !»
lui lança un bobo qui, la mèche dans les yeux, manqua de la renverser avec son vélib. Pour éviter le vélo, Madeline recula brusquement d'un pas, mais fut cueillie par le coup de klaxon d'un 4x4 qui tentait de doubler la bicyclette par la droite. Elle prit peur et esquiva de justesse le tout-terrain pour gagner le trottoir d'en face, cassant au passage le talon d'une de ses bottines. « Mais merde !» souffla-t-elle en ouvrant la porte de sa boutique pour se réfugier dans son jardin extraordinaire. Elle adorait Paris. Elle détestait les Parisiens.
« Tout va bien, madame ?»
lui demanda Takumi, voyant qu'elle était sous le choc.
« T'es long à la détente, toi !»
lui reprocha-t-elle pour garder sa contenance.
« Pardon ?» se reprit l'Asiatique. « Tout va bien, Madeline ?»«
Oui, c'est juste ce fichu talon qui... »
Elle laissa sa phrase en suspens et se passa un peu d'eau sur le visage avant d'enlever ses chaussures et son blouson sous le regard de Merlan Free de son employé.
« Inutile de me détailler avec cet air concupiscent. Je n'irai pas plus loin dans le striptease. »
Lorsqu'elle vit Takumi rougir comme une pivoine, Madeline regretta son emportement et ne voulut pas laisser la gêne s'installer entre eux.
« Tu peux aller déjeuner. » « Prends ton temps, je m'occupe de tout. »
Restée seule dans la boutique, la jeune femme activa avec fébrilité le téléphone de Jonathan. Il venait de lui répondre. « Chère Madeline, si cela peut satisfaire votre curiosité, voici la réponse à vos questions. 1. L'eussé-je été un jour, cela fait longtemps que je ne suis plus le meilleur chef du monde. Disons qu'à la manière d'un écrivain, j'ai perdu mon inspiration et la passion nécessaire pour réaliser des créations innovantes. Cela dit, si vous passez par San Francisco avec votre Raphaël, ne vous privez pas de venir déguster le steak frites de notre restaurant. Notre prime rib y est merveilleusement tendre et savoureux. Quant à nos frites, ce sont en réalité des pommes de terre sautées à l'ail, au basilic et au persil. Des belles de Fontenay, cultivée en petite quantité par un producteur local et que tous nos clients trouvent particulièrement fondante et dorée à point. 2. C'est vrai qu'il est 4h du matin et que je suis encore debout. La raison? Deux questions qui me trottent dans la tête et m'empêchent de trouver le sommeil. 3. Allez-vous faire foutre? Rue d'Odessa, Takumi entra dans le petit restaurant où il avait ses habitudes. Il salua le patron et s'installa un peu en retrait dans la deuxième salle, moins bruyante et moins fréquentée. Il commanda un millefeuille de tomates au chèvre frais, une spécialité que lui avait fait découvrir Madeline. En attendant son entrée, il sortit de son sac un dictionnaire de poche pour y chercher le sens du mot « concupiscent » qu'il découvrit avec embarras. Comme pris en faute, il eut soudain l'impression irrationnelle que tous les clients lui lançaient des regards accusateurs. Madeleine prenait un malin plaisir à le provoquer et à le bousculer dans ses certitudes et ses repères. Il regrettait qu'elle ne le prenne pas au sérieux et qu'elle le considère davantage comme un adolescent que comme un homme. Cette femme le fascinait à la manière d'une fleur mystérieuse. Le plus souvent, elle était grand soleil, blonde comme un tournesol, répandant autour d'elle sa lumière, sa confiance et son enthousiasme. Mais à certains moments, elle pouvait être secrète et sombre, à l'image de l'orchidée noire, une fleur rare recherchée par les collectionneurs qui s'épanouissait en plein hiver sous les palmiers de Madagascar. Le client entra au mauvais moment. Pour le servir, Madeleine interrompit la rédaction de son mail et dissimula le téléphone dans la petite poche de son tablier. C'était un adolescent, entre 15 et 17 ans, au look de baby rocker, comme on en croisait à la sortie des lycées des beaux quartiers. Converse, jeans slim, chemise blanche, veste cintrée de marque, coupe de cheveux savamment décoiffée. « Je peux vous aider ?»«
Oui, je voudrais acheter des fleurs. »
expliqua-t-il en posant le flight case de sa guitare sur une chaise.
« Ça tombe bien. Vous m'auriez demandé des croissants, j'aurais eu plus de mal. »«
Hein ?»«
Rien, laissez tomber. Plutôt un bouquet rond ou de grandes fleurs ?»«
Bah, j'en sais rien en fait. »«
Plutôt pastel ou coloré ?»«
Hein ?» répéta l'ado comme si on lui parlait hébreu.
« Assurément pas le plus dégourdi de sa génération, »
pensa-t-elle en essayant de garder son calme et son sourire.
« Bon, vous avez une idée du budget que vous aimeriez consacrer à votre achat ?»«
Je sais pas, on peut avoir quelque chose avec 300 euros ?»
Cette fois, elle ne put retenir un soupir. Elle détestait les gens qui n'avaient aucune conscience de la valeur de l'argent. En une fraction de seconde, quelques souvenirs de son enfance remontèrent à la surface. Les années de chômage de son père, les sacrifices de sa famille pour lui permettre de faire des études. Comment un tel fossé pouvait-il exister entre ce gamin né une cuillère d'argent dans la bouche et la gosse qu'elle avait été?
Bon, écoute, petit gars, t'as pas besoin de 300 euros pour acheter un bouquet. En tout cas, pas dans ma boutique, compris?
Ouais,
répondit-il mollement.
Alors, ces fleurs, c'est pour qui?
Pour une femme.
Madeleine leva les yeux au ciel.
Pour ta mère ou pour ta petite copine?
En fait, pour une amie de ma mère,
répondit-il, un poil plus gêné.
Bon, et quel message tu veux faire passer en offrant ce bouquet?
Un message?
Tu lui offres ces fleurs dans quel but? La remercier pour t'avoir offert un pull à ton anniversaire ou pour lui dire autre chose?
Plutôt la deuxième solution.
Putain, c'est l'amour qui te rend con ou t'es toujours comme ça?
Demanda-t-elle en secouant la tête. L'ado ne crut pas utile de répondre. Madeleine s'éloigna du comptoir et entreprit une composition.
« Tu t'appelles comment ?»«
Jérémy. »«
Et l'ami de ta mère, elle a quel âge ?»«
Plus vieille que vous, en tout cas. »«
Et j'ai quel âge, à ton avis ?»
Là encore, il choisit de ne pas répondre, preuve qu'il n'était peut-être pas si crétin qu'il en avait l'air.
« Bon, tu ne les mérites pas, mais voilà ce qu'il y a de mieux. » expliqua-t-elle en lui tendant un bouquet.
« Ce sont mes fleurs préférées, des violettes de Toulouse à la fois simples, chic et élégants. »«
C'est très joli, » admit-il. « Mais dans le langage des fleurs, ça signifie quoi ?»
Madeleine haussa les épaules.
« Laisse tomber le langage des fleurs. Offre ce que tu trouves beau, c'est tout. »«
Mais quand même, »
insista Jérémy. Madeleine fit semblant de réfléchir.
Dans ce que tu appelles le langage des fleurs, la violette représente la modestie et la timidité. Mais elle symbolise aussi un amour secret, donc si tu as peur que cela paraisse ambigu, je peux te faire un bouquet de roses à la place.
« Non, les violettes me conviennent très bien, »
répondit-il en arborant un large sourire. Il régla sa commande, et au moment de quitter la boutique, remercia Madeleine de ses conseils. Enfin seule, elle récupéra son téléphone et s'empressa de terminer son message.
« Mille fois pardon, Jonathan, pour cette incursion dans votre vie privée de manière si peu subtile. La faute à un verre de trop qui m'a fait écrire plus vite que mon ombre. Un blanc moelleux de Vouvray aux arômes de miel, de rose et d'abricot. Vous connaissez sûrement, et si c'est le cas, vous me pardonnerez. Je pense que la grève de la poste ne va pas s'éterniser.
Mais pour ne prendre aucun risque, je vais faire appel à un transporteur privé. J'ai contacté un coursier qui viendra chercher votre téléphone en fin d'après-midi. Même en comptant le week-end et les fêtes, on m'a assuré que vous recevriez votre paquet avant mercredi. Permettez-moi de vous souhaiter de joyeuses fêtes ainsi qu'à votre fils. Madeleine. PS. Je suis curieuse, pardon. Vous m'écrivez dans votre dernier message que si vous êtes encore debout au milieu de la nuit, c'est parce que deux questions vous trottent dans la tête et vous empêchent de trouver le sommeil. Est-ce indiscret de vous demander lesquelles ? Chère Madeleine, vous voulez connaître les deux énigmes qui m'empêchent de dormir ? Les voici. 1. Je me demande qui est Esteban. 2. Je me demande pourquoi vous faites croire à votre entourage que vous cherchez à avoir un enfant alors que vous prenez toutes les précautions pour justement ne pas en avoir. Submergée par la panique, Madeleine éteignit le téléphone et s'en éloigna comme pour fuir un danger. Il savait. Ce type avait fouillé dans son portable et il avait deviné pour Esteban et pour l'enfant. Une goutte de sueur glissa le long de son échine. Elle entendait son cœur cogner dans sa poitrine. Ses mains tremblaient et elle se sentait flageolée sur ses jambes. Comment était-ce possible ? Son agenda et ses mails, bien sûr. Un grand vide inattendu se creusa dans son ventre et elle dut lutter pour ne pas perdre pied. Il fallait qu'elle se calme. Avec ses seuls éléments, Jonathan l'Empereur ne pouvait pas l'atteindre. Tant qu'il ne mettait pas la main sur autre chose, ce n'était pas une vraie menace. Mais il y avait dans les entrailles de son téléphone un document sur lequel il ne devait surtout pas tomber. Quelque chose que Madeleine n'avait pas le droit de posséder. Quelque chose qui avait déjà détruit sa vie et l'avait conduite aux portes de la folie et de la mort. En théorie, son secret était bien protégé. L'empereur était un sale fouineur, pas un as de l'informatique, ni un maître chanteur. Il avait joué avec elle, s'amusant à ses dépens, mais si elle ne le relançait pas, il allait se lasser. Du moins, c'est ce qu'elle espérait.